Direct en jeu, la radio insolite. Vous savez qu'en France, nous avons un président de la République. Puis dans certains endroits, il y a des rois. Et puis, il y a aussi des pachas. Je suis avec un pacha, c'est bien ça ?
Avec un pacha de sous-marin, exactement.
Alors, premier point, avant de savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est qu'un pacha ?
Alors, le pacha, c'est le commandant dans la marine nationale, le commandant d'un bâtiment de surface ou, d'un sous-marin. En l'occurrence, je suis commandant de sous-marin.
Donc, c'est quasiment Dieu ?
C'est à bord du sous-marin, c'est celui qui décide, effectivement. Mais c'est pas Dieu, quand même. Faut pas exagérer.
Qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier ?
Alors, je suis le capitaine de vaisseau Venceslas. Je viens d'Auvergne, d'ailleurs, donc la région dans laquelle on est actuellement. C'est l'attirance de la mer et d'une aventure humaine qui a un sens, qui m'a attiré dans, dans ce métier de sous-marinier, d'officier de marine.
C'est quoi ? C'est une rencontre ? C'est le fait d'avoir vu des vidéos ? Le fait d'avoir vécu vous-même, comment dire ? Des visites dans des arsenaux ?
Non, c'est un peu tout ça à la fois, j'ai envie de dire. C'est une attirance, encore une fois, pour un métier qui a du sens. J'avais pas envie d'être derrière un bureau. Et je voulais, en plus, si possible, être près de la mer, qui m'attirait tout particulièrement. Donc j'ai réussi à réunir toutes ces exigences-là dans un seul métier.
Excusez-moi, c'est vrai qu'on ne voit pas en radio, mais je suis en train de dire près de la mer, mais enfin en Auvergne, il y a la mer en Auvergne ?
Alors là, aujourd'hui, on est venu à Lyon pour présenter notre métier à des jeunes qui voudraient nous rejoindre. Mais non, on est basé à Brest ou à Toulon, donc près de la mer.
Vous avez commencé à quel âge ?
Commencé à 21 ans.
C'est pas dur de se dire qu'on quitte sa famille pour en découvrir une autre ?
Non, bon, on ne quitte pas complètement et ni définitivement sa famille, mais effectivement, on découvre une autre famille, et ça, c'est une réalité. À bord d'un sous-marin, à bord d'un bâtiment de la marine nationale, il y a un esprit d'équipage, et il y a une esprit de cohésion qui est très fort. Et donc, effectivement, on rejoint une famille, et ça, c'est très important, parce qu'on fait un métier aussi un peu exigeant, et tout ça est très facilité par cet esprit de famille qu'on retrouve à bord d'un bâtiment de la marine nationale.
C'est original parce que, par exemple, on est en face d'un stand qui indique 25 métiers. Je crois qu'il y a 50 métiers. Vous avez évolué comment ? Vous avez commencé par en étant un mousse, un matelot, puis après vous avez grimpé ?
Alors, effectivement, on peut commencer au plus bas de l'échelle et arriver jusqu'au grade d'amiral. En l'occurrence, moi, j'ai commencé directement comme officier en ayant fait l'école navale.
D'accord. Et l'école navale, ça demande d'avoir certaines compétences, une formation de base ?
Alors, pour faire l'école navale, il faut être scientifique, plutôt, parce qu'il faut faire une prépa, maths-sup.
C'est Thomas Pesquet, quoi, carrément.
Alors non, c'est pas aussi exigeant que Thomas Pesquet, mais il faut avoir quand même un peu d'appétence pour les matières scientifiques.
On est ici au Conseil régional, et l'objectif de ces deux jours, c'est d'accueillir des jeunes, d'accueillir des gens maximum 31 ans, je crois, c'est ça ?
Alors c'est ça, mais on accueille des jeunes de la 3e jusqu'à Bac plus 5. Et on offre, comme vous l'avez dit, jusqu'à 50 métiers. Donc il y en a pour tous les goûts. Et donc c'est très... Si vous avez envie de faire un métier qui sort un peu de l'ordinaire, pour une cause intéressante, une cause quand même qui est la défense de nos intérêts, de l'intérêt de la France, de nos valeurs, eh bien rejoignez la Marine nationale, parce que là vous aurez ce que vous cherchez.
Chaque fois que j'ai posé des questions, chaque fois on m'a répondu, le seul critère c'est l'envie.
Alors exactement, il faut être motivé. Justement, vous êtes motivé, si vous pensez être nul en classe et que c'est pas fait pour vous, ben si, c'est fait pour vous. Si vous êtes motivé, vous allez y arriver et on va vous former déjà, parce qu'on a nos propres écoles. Et puis après, c'est vraiment la motivation qui fait la différence entre deux marins et entre deux carrières.
Dernière question, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se dire qu'on va rentrer dans un sous-marin, qu'on va passer sous l'eau et on va y rester un petit moment ? Il y a une préparation psychologique à avoir ?
Absolument pas. En fait, il faut juste ne pas avoir d'appréhension particulière. À partant de là, il n'y a pas d'exigence particulière psychologique ou autre. Ça se passe très bien.
On est d'accord qu'il n'y a pas de balcon dans un sous-marin ?
Ah non, il n'y a pas de balcon, pas de hublot.
Merci.
De rien, au revoir.
Direct en jeu de Radio Insolite, vous savez qu'on aime bien aller dans des endroits qui sortent un peu de l'ordinaire. Et là, j'ai du mal à comprendre, il faut que je vous pose une colle d'entrée. Bonjour, à qui ai-je le plaisir ?
Bonjour, je suis le commandant Sanson, je suis le chef du service de recrutement de la Marine nationale.
Alors écoutez, on est à Lyon ici, au siège de notre conseil régional Auvergne-en-Alpes. On doit parler de sous-marins, parlons des sous-marins dans le Rhône et dans la Saône.
Oui, effectivement, c'est insolite, je vous confirme. En fait, il faut savoir que 40% des marins qui rentrent dans la marine ne sont pas du littoral. Ils sont de l'intérieur des terres, donc ils ont l'accent de la vallée du Rhône, du Midi, ou de l'Alsace, ou du Nord, ou l'accent parisien. Ils n'ont pas tous l'accent toulonnais ni brestois.
l'accent de la région lyonnaise. Je ne la connaissais pas, celle-là.
Écoutez, on l'a inventé aujourd'hui, alors.
D'où venez-vous ?
Alors, je viens de Normandie. Je suis né dans un petit village qui s'appelle Conches-en-Ouche, où il n'y a pas de marins, c'est sûr. Mais par contre, dans mon collège, un jour, il y a des gens qui sont venus avec des films et qui nous ont montré des sous-marins, des bateaux. Et ces marins, je les ai trouvés très professionnels. Et je me suis dit, c'est vrai, si eux l'ont fait, ben, ça veut dire que je peux le faire aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc le soir, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit, la marine est venue dans mon collège, j'ai vraiment aimé ce qu'ils ont fait, j'aimerais bien en faire mon métier. Voilà, ça c'était il y a une quarantaine d'années.
C'était une révélation donc.
Oui, c'était une révélation, mais qui après s'est construite. Parce que bon, l'idée, c'est une idée, mais après, il faut la mûrir. Donc, je suis allé au CIRFA de Rouen, qui était le plus proche d'où j'étais. Et j'ai beaucoup échangé avec les équipes qui m'ont expliqué les métiers, etc. Après, je suis rentré dans la marine, il y a 34 ans, pour le coup. Et après cette rentrée dans la marine, depuis, j'ai fait 4 métiers différents et une quinzaine d'affectations, une quinzaine d'emplois différents dans la marine.
Est-ce qu'on peut avoir une idée des métiers, justement ?
Oui, alors il y a une cinquantaine de métiers dans la marine. Ça, c'est les métiers quand on rentre. On peut très bien être dans les métiers des opérations, autour de la détection, que ce soit dans les sous-marins, les avions, parce que la marine a des avions de chasse. Les rafales du Charles de Gaulle sont pilotées par des marins. On peut se retrouver également dans les forces de surface, plus classiquement, ou dans les commandos. Et dans ces quatre forces-là, vous retrouvez une cinquantaine de métiers. Je disais les métiers des opérations, ça peut être des métiers du soutien. Il y a des mécaniciens, des électriciens, des atomiciens dans les sous-marins. Il y a des métiers du soutien de l'homme également, il y a des gestionnaires de ressources humaines, il y a aussi des cuisiniers, les fameux cuisiniers de la marine. Et je sais qu'à Lyon, la cuisine, ça compte.
Vous le faites exprès, là. Est-ce qu'il faut avoir un talent ? Est-ce qu'il faut avoir des compétences ? Est-ce qu'il faut avoir un diplôme pour rentrer dans la marine ?
Alors, le seul talent qu'on doit avoir, c'est la motivation. Parce que le reste, on est là pour aider les jeunes gens qui viennent nous voir. 100% des marins qui rejoignent les rangs de la marine sont formés par la marine. On n'a pas besoin d'avoir fait une grande école ou une petite école. En fait, nous recrutons de la 3e jusqu'à Bac plus 5. Et ensuite, en fonction des niveaux scolaires des gens, on les oriente plutôt vers des métiers de cadre, des métiers techniques, des métiers d'encadrement, des métiers d'opérateur. Voilà, matelot, officier marinier, officier. Et après, on forme les gens dans le métier qu'ils ont envie de faire. Je vais vous donner un exemple. Il y a une jeune femme qui était au CIRFA de Tours, qui est venue... Parce qu'elle ne savait pas trop quoi faire. Elle avait un BTS d'esthétique. Et elle ne savait pas. Elle s'est dit, la marine, pourquoi pas. Donc, elle est rentrée. Elle était agent d'accueil dans le CIRFA de Tours. Et puis après, elle s'est dit, mais au fait, je vais continuer à chercher. Et aujourd'hui, elle est navigateur à bord d'une frégate. Et elle navigue sur la mer Jolie. Donc, voilà. Des parcours comme ça, il y en a souvent parce que nous avons des écoles. Ce sont nos propres écoles. Et on forme les gens, quel que soit leur niveau, quel que soit leur... Ce qui est important, c'est le goût. Et pour revenir à votre question de départ... Il faut prendre le temps de bien réfléchir sur les métiers qu'on offre de manière, je dirais, à rentrer dedans avec l'envie. L'envie, c'est le moteur de la vie.
Qu'est-ce que c'est que le CIRFA, s'il vous plaît ?
Excusez-moi, c'est un acronyme qui signifie Centre d'information de recrutement des forces armées. Ce sont les endroits où il y a des marins qui accueillent les jeunes gens et leur expliquent tous les métiers de la marine. Donc le premier objectif, c'est d'informer les gens. Après le recrutement, ça se fait uniquement si les gens ont envie, évidemment.
Il y a quand même un truc qui est très insolite que j'adore, moi, pour avoir habité Paris. Pouvez-vous me dire où se trouve le ministère de la Marine ?
Alors, le ministère de la Marine n'existe plus.
Merci, c'est gentil.
Le ministère de la Marine existe autrefois. Aujourd'hui, on parle de ministère des Armées. Le ministère des Armées se trouve à Ballard. D'accord. Et l'hôtel de la Marine, dans lequel la Marine a été depuis 1793, de mémoire, a été vendu et rétrocédé à l'État, plus exactement, parce que c'était un bâtiment de l'État qui est retourné dans le giron de l'État, et la marine est à Ballard depuis 2015. L'état-major de la marine est à Ballard.
Si je pose la question, c'est quand j'étais à Paris, moi je me rappelais que le ministère de la Marine était place de la Concorde, et je trouvais ça assez original quand même.
Oui, alors en fait, l'hôtel de la marine se trouve toujours place de la Concorde, il a été rénové entièrement, et la grande majorité de ces locaux enfin, sont à visiter, c'est le musée de la marine, enfin il y a une grande galerie qui a été rénovée entièrement et qui vaut vraiment le déplacement.
Allez, dernière question. Aujourd'hui, demain, ici, dans notre conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le recrutement. Donc je viens, les mains dans les poches, je viens juste pour vous découvrir et pourquoi pas pour m'engager.
Alors, si vous avez entre 16 et 30 ans, absolument. Disons que...
Je vous remercie. Je suis disqualifié en un mot.
Oui, mais comme moi, hein, si je devais recommencer, je serais un peu trop vieux. Mais en fait, il faut venir tout simplement... je pense que le plus important avant de se recruter, avant d'être recruté, c'est de discuter avec les marins qui sont à l'hôtel de région sur les métiers des sous-marins. Il y a une cinquantaine de professionnels qui sont venus spécialement pour ça. Et une fois qu'on a une idée qui commence à pousser, à ce moment-là, on va sur le site etremarin.fr et on vient prendre un rendez-vous pour ensuite discuter tranquillement dans un CIRFA d'une éventuelle carrière. Voilà. Mais il faut bien réfléchir. Mais en tout cas, ce que je peux assurer, c'est que derrière, il y a de très belles carrières, des voyages absolument incroyables, parce qu'on fait encore rêver les gens et on est content de ça.
Je vous remercie.
Je vous en prie, c'est avec plaisir.
Etremarin.fr, toujours dans notre beau conseil régional, région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le site internet etremarin.fr. Alors attention, j'ai un vrai gone, j'ai un petit gone. Bonjour, qui êtes-vous? Quel est votre prénom?
Moi, c'est Maître Romain. Voilà, donc, je suis sous-marinier depuis 15 ans. Natif de...
Non, depuis 15 ans, depuis 19 ans.
Non, 15. 15 ans.
Non, vous avez dit que vous avez commencé à 19.
Oui, mais j'ai 34 ans, donc ça fait 15 ans.
Oui, donc, voilà.
Donc, je suis originaire de Lyon. Je suis né à Lyon 6e et j'ai vécu à Bron. Donc, je suis vraiment d'ici, quoi.
Quel a été le déclic?
J'ai été intrigué, en fait, par ces bateaux-là. Ces bateaux mystérieux qui disparaissent au beau milieu de l'eau et qu'on ne trouve plus.
Ça y est, j'ai compris, vous parlez de sous-marin. Je ne savais pas qu'un sous-marin, c'était un bateau.
Nous, on les appelle comme ça. C'est vrai que ça peut déstabiliser... Quand on ne connaît pas notre langage, on appelle ça sous-marin, notre bateau. D'accord. Voilà, donc j'ai été intrigué justement par le mystère que ça peut apporter. Ce sont des sous-marins. Quand on parle de sous-marin en France, c'est un peu méconnu. Peu de gens connaissent le métier de sous-marinier et ses bateaux en eux-mêmes. C'est ça qui m'a attiré en fait. C'est ça qui m'a attiré l'œil et j'y suis allé et j'en suis pas déçu de ce que j'ai fait, la démarche que j'ai fait.
Enfin, on est bien d'accord que vous êtes de Lyon.
Tout à fait.
Et les sous-marins, vous en voyez souvent sur le Rhône ou sur la Saône?
Bah non. Je me suis dit, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Et j'y suis allé.
C'est quoi? Vous aviez quelqu'un de votre famille qui était déjà dans la carrière militaire? Ou c'est un film? C'est une rencontre? Ce sont des gens qui sont venus présenter dans votre école?
Alors moi, j'ai mon père qui est gendarme à la retraite. D'accord. Donc quand j'étais tout jeune, il était encore gendarme, militaire, de carrière. D'accord. Et j'étais un peu en recherche de l'ampoule qui s'allume pour trouver ma voie, on va dire. Voilà. Donc je l'ai trouvé. Ça a été la marine et plus particulièrement l'électricité. Je suis électricien de métier et la marine m'a ouvert une possibilité et j'y suis allé pour aller au sous-marin.
Ça veut dire que vous avez une formation de base qui était électricien au départ?
Tout à fait. Tout à fait. Je l'ai fait à Branly, lycée Édouard Branly, là sur Lyon. C'est BEP Bac Pro d'Elec, donc électricien.
À 19 ans, ça veut dire qu'on quitte sa famille?
Tout à fait.
Plutôt, on trouve une nouvelle famille.
On trouve une nouvelle famille, oui, qui vous accueille. Donc, il faut faire ses preuves. Hein. Voilà, c'est normal. Mais elle vous accueille bras ouverts. C'est une grande famille.
Concrètement, ça veut dire quoi, faire ses preuves?
Bah, montrer qu'on a envie, qu'on bosse. Il faut montrer qu'on a envie, qu'on a la niaque. Alors, c'est pas tous les jours simple. Mais avec le boulot, on arrive à avoir ce qu'on veut. Et on nous laisse pas sur le bord de la route. Si on voit qu'on travaille, on vous ouvre les portes. Par contre, il faut travailler. Et je pense que c'est partout pareil, que ce soit dans le civil. Quelqu'un qui veut se donner les moyens, il arrive à avoir ce qu'il veut. Et au sous-marin, quelqu'un qui travaille, on fera tout pour le pousser. On ne laisse pas quelqu'un sur le bord de la route. On fait tout pour monter le niveau de tout le monde.
Alors, c'est très basique, hein, puisque je ne connais pas ce métier. Donc, premier jour, vous rentrez dans le sous-marin, et puis deuxième jour, vous êtes sous l'eau.
Non. Alors, déjà, pour rentrer dans la marine, on a le cursus militaire, à la base. Donc, on postule à rentrer à la marine. On rentre à la marine, on a toute la partie formation initiale de marin, donc de militaire. Marcher au pas, les tenues, les grades. Après, vous partez à votre école de spécialité, donc électricien marine, ce qui est différent d'électricien bâtiment. Vous avez quand même la base d'élec que vous avez eue dans votre cursus, on va dire, civil. Par contre, vous l'adaptez à la marine, au bâtiment de la marine nationale.
C'est quoi la différence?
La technologie. Bon, on était sur des technologies des années 70, alors que moi, j'ai eu mon bac en 2006. Donc, vous avez quand même des vieux relais, des vieux contacteurs, du triphasé, très peu travailler sur du triphasé. Enfin voilà, on s'adapte à la technologie des bateaux potentiellement sur laquelle on va naviguer. Et à l'issue de ça, vous postulez volontaire à sous-marin si vous êtes choisi pour faire sous-marinier, donc si vous êtes apte médicalement, vous partez à l'école sous-marine. Vous allez passer un CE, c'est-à-dire le certificat élémentaire de sous-marinier. Vous apprenez de façon élémentaire le sous-marin dans sa globalité, que ce soit des purges au poste de pilotage, à tout ce qui est système d'écoute sous l'eau, tout ce qui est le système du réacteur, la propulsion, les barres de plongée, voilà, vraiment la CGSM, c'est-à-dire la connaissance générale du bateau. Et à l'issue, vous partez dans votre cours de spécialité, donc on voit que je fais pas mal d'écoles, il y a quand même pas mal d'écoles, hein. L'école militaire, l'école de spé, l'école école sous-marin, et après l'école de spé sous-marine. Et à l'issue de tout ça, vous vous embarquez sur un sous-marin, vous vous entraînez, c'est-à-dire vous vous entraînez à réagir aux avaries qui peuvent vous arriver, et à la fin de cette validation-là, vous partez en mer. Donc le cursus est quand même long.
Il faut compter combien de cursus ? 2-3 ans ?
Moi, je suis rentré en 2006, donc novembre 2006, et je suis allé sous l'eau en janvier 2008. Donc on compte quand même on compte à peu près 18 mois.
Comment est-ce qu'on se prépare à aller sous l'eau ? Parce que quand on va sous l'eau, on ne va pas sous l'eau pour 24 heures.
J'ai envie de dire qu'on se prépare. Nous, on a l'habitude, à part au début sur les premières où c'est un peu l'inconnu. Le plus dur, pour être honnête, c'est de préparer la famille. Nous, on est là pour ça. C'est notre travail. On sait pourquoi on fait ça. On sait à quoi s'attendre. Donc la préparation, on la connaît. Il n'y a pas. Moi, personnellement, je n'ai pas forcément de préparation. C'est plus la famille, c'est un peu plus dur à préparer.
Il n'y a pas une contrainte psychologique qui fait qu'on va être, entre guillemets, un tout petit peu enfermé dans une boîte à sardines, tout au fond de la mer ? Excusez-moi hein, pour l'image que je donne, mais c'est à peu près ça, le raisonnement.
Alors, la contrainte psychologique, je pense qu'on se pose des questions sur les premières missions. Ce qu'on ne connaît pas, c'est l'inconnu. Mais au bout de 2, 3, 4 missions, vous savez si vous êtes fait pour ça ou pas. Moi, je ne l'ai jamais vraiment ressenti comme une contrainte psychologique ou de peur spéciale de partir en mer, au contraire. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 15 ans que je fais ça. J'adore mon métier. J'adore être sous l'eau.
Je suis là pour ça. Ouais, mais là, vous vous trouvez confronté à une situation un peu délicate maintenant.
Tout à fait. J'arrive à la fin où je ne pars plus en mission. Alors, je pars quand même sous l'eau à la petite semaine pour entraîner les équipages. Mais c'est un métier différent. Je partage mon savoir.
Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il faut avoir un certain âge pour faire ça ou...
Non, c'est... Vous pouvez naviguer jusqu'à ce que... Tant que vous pouvez... tant que vous êtes apte médicalement, déjà aussi, avec les enfin, ce qui peut se passer dans la vie. Et tant que vous le pouvez, tant que vous le voulez. Voilà, moi, j'ai voulu faire une pause dans mes navigations, on va dire, mes navigations opérationnelles, point de vue de ma famille, tout simplement.
Vous avez dit que vous avez 34 ans, ce qui est assez original. Vous me paraissez jeune, pourtant. Vous allez partir à la retraite.
Alors, la retraite. J'ai pas dit que je partais à la retraite, je n'ai pas dit ça.
C'est ce que j'ai entendu.
Alors, une carrière de sous-marinier, à savoir que dans la marine, après 17 ans ou 19 ans de service, suivant la carrière que vous avez faite, si vous avez cumulé tout vos trimestres comme dans le civil, vous pouvez prétendre à une pension. Une pension. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, à mes 17 ans et un jour, je veux partir, je peux poser ma demande de pension, je pars dans le civil, j'ai une pension qui tombe tous les mois, et je peux retrouver quelque chose après dans le civil. Après, ce n'est pas obligatoire, c'est une possibilité qui s'offre à nous. Vous pouvez faire des carrières longues, partir faire officier, ou alors aller jusqu'à la date limite, l'âge limite de votre grade, qui peut être 55, 56, 60 ans, suivant le grade que vous avez. Vous pouvez faire des carrières longues ou des carrières courtes, et refaire une carrière après dans le civil. Il y a plein d'opportunités qui s'offrent à vous.
Pour en finir, ici, on est un peu dans notre navire amiral de la région, puisqu'on est au conseil régional d'Auvergne en Alpes. Ça vous manque de ne pas être sous l'eau ?
Oui. Ah, c'est un manque. C'est un manque. Après, je mets toujours les pieds sous l'eau, comme je vous disais tout à l'heure, pour entraîner les équipages avant qu'ils partent en mer. Mais oui, il y a un manque. Il y a un manque. Après, la situation familiale a changé, donc c'est différent, on va dire. C'est différent. C'est plus... moi, ça me manque un peu, mais après, la famille me manque aussi, plus qu'avant.
Merci d'avoir parlé avec votre cœur.
Merci à vous.
Direct en jeu de Radio Insolite, toujours en direct de notre conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et alors, je sais pas s'il faut l'appeler le chef de service ou le commis. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein.
Ah, le commis, surtout, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, le commis.
Le commis, c'est celui qui fait les commissions ?
Le commis au vif, non, il est chargé de la comptabilité, de la gestion des stocks, des commandes et de tout ce qui concerne l'alimentaire.
Alors, comme on ne sait pas exactement qui vous êtes et ce que vous faites, la gestion des stocks. Mais alors, attendez, la gestion des stocks, vous ne pouvez pas vous faire livrer tous les jours, vous?
Ah non, du coup, avant de partir, on se fait livrer pour 70 jours au minimum de nourriture pour pouvoir tenir tout au long de la mission.
Allez, on recommence tout à zéro. Bonjour, à qui ai-je le plaisir?
Vous avez le plaisir de rencontrer le second maître boulanger.
D'accord. Alors, vous avez dit 70 jours, c'est-à-dire que vous partez en vacances ou vous partez en quoi?
On part en patrouille opérationnelle.
C'est du sérieux, là, on ne blague pas. Vous êtes de la Marine nationale, on est bien d'accord. Comment est-ce qu'on fait pour prévoir 70 jours de stock?
Du coup, avant de partir en mission, on a ce qu'on appelle une période d'entraînement où je vais me mettre en partenariat avec le cuisinier. On va élaborer 70 jours de menu. À partir de ces jours de menu, du coup, on va sur une liste de commandes. Et à partir de là, on enchaîne, et on fait les commandes et on prépare tout pour la patrouille.
Ça veut dire que dans un sous-marin, il y a des frigos, il y a des congélateurs, il y a quoi?
Alors, on a déjà ce qu'on appelle un cambuse. C'est un grand local où on stocke déjà toute l'épicerie. Mmh. Après, on a aussi un grand frigo et un grand congélateur où on stocke. Pour le frigo, on va stocker à peu près 14 jours de frais. Et pour tout ce qui est congelé, le congelé pour l'ensemble de la patrouille.
Est-ce qu'il y a des repas traditionnels qui se retrouvent à chaque fois?
Alors, on a plusieurs repas tradis, on peut dire. Vous avez tous les vendredis soirs, c'est un repas pâtes, les gratins de pâtes, les mecs sont contents. Le jeudi midi, c'est un petit repas amélioré. Alors, suivant les équipages, c'est régional ou pas, mais on fait un repas amélioré. Et le dimanche midi, c'est un très très bon repas avec du bon vin bouteille pour fêter la fin de la semaine.
Et sinon, c'est le cachet frites traditionnel?
Ça dépend du cuisinier. Nous, on a un cuisinier qui aime élaborer des bons menus et il aime pas quand c'est simple. Le steak pâtes, on n'a pas le droit.
Je suppose que comme vous m'avez dit que vous êtes de Brest, les crêpes, elles sont obligatoires.
Pas forcément. Pas forcément. Non, on ne fait pas trop de crêpes.
Oui, les galettes. Ok. À côté de vous, il y a deux personnes. Quelle est votre fonction à vous?
Alors moi, je suis boulanger à bord des SNLE. Donc uniquement sur la SNLE, sur la SNA, ça n'existe pas.
C'est quoi SNLE?
La SNLE, c'est les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins.
D'accord.
Donc, qui sont basés à Brest. Avec un équipage de 110 à 115 personnes. Et je travaille en collaboration avec le commis et les cuisiniers pour faire des pâtisseries 4 fois par semaine. Mm-hmm. Pour les repas à thème, pour les viennoiseries du matin, pour le pain tout au long de la journée, pour le petit déjeuner, pain spécial pour le midi et pain classique souvent pour le soir, pour la digestion.
Il y a une différence entre un boulanger qui est dans une boulangerie et vous?
Il y en a plusieurs. L'élaboration se fait pas de la même manière puisqu'on est dans un local plus petit. Mm-hmm. On n'a pas la même gestion des stocks, on ne peut pas s'amuser à préparer sur plusieurs jours. Mm-hmm. Le matériel aussi, on est pas mal impacté parce qu'on ne dispose pas de vrais moyens de boulangerie. On a des fours qui sont très corrects mais qui n'ont rien à voir avec des fours à sol qu'on peut retrouver dans une boulangerie classique. Mm-hmm. On est quand même équipé d'un pétrin. Après, on a un marbre réfrigéré aussi. Mm-hmm. Sinon, les horaires, pour moi, c'est de nuit. Je travaille quand les cuisiniers ne sont pas en cuisine.
D'accord.
Autrement, je fonctionne exactement comme les boulangers. J'ai la même façon de produire qu'un boulanger classique dans le civil.
Troisième métier, c'est au niveau de ce que j'appelle l'alimentation. Enfin, votre métier à vous?
La cuisine.
Cuisine, donc vous faites la cuisine?
Oui.
Donc vous avez des casseroles, vous avez tout ce qu'il faut pour agir.
C'est ça. On a un petit peu de matériel. Après, moi je suis le second maître galet. Je suis sur SNA. Je suis à Toulon comparé aux confrères qui sont à Brest. On est un peu moins bien équipé niveau matériel parce que du coup le bâtiment est un peu moins récent. Malgré que là qu'on commence à avoir des très beaux bâtiments avec les suffrains, qu'eux sont quand même vachement, vachement équipés niveau tout ce qui est cuisine. Après, là, c'est le gros problème, enfin, c'est pas un problème, c'est la particularité qu'on a comparé à un autre cuisinier, c'est l'environnement, la place aussi qu'on a. On a très peu de place. Faut vous imaginer que pour faire à manger à 80, il y a des besoins des fois de très grandes cuisines. Nous, on n'a pas cette chance-là. C'est vraiment beaucoup d'organisation, parce qu'on a pas, on a à peu près 2 fours, on a un tout petit évier et 2-3 plaques chauffantes. Donc avec ça, il faut qu'on réussisse à sortir des plats pour 80 toujours chauds et verrier.
Ce que j'aime bien, c'est derrière nous, alors on ne voit pas puisqu'on est en radio, mais derrière nous, il y a une poêle, excusez-moi, il y a une poêle.
J'avais délimité du coup justement pour montrer en fait au public dans quoi je travaillais. Donc en fait, faut vous imaginer, vous prenez des tables classiques, on va dire, vous en mettez en forme de U. Et voilà, c'est à peu près la place qu'on a pour travailler, en sachant qu'il faut s'imaginer que sur cette table-là, on a un côté où il y a l'évier pour tout ce qui est du coup vaisselle, et à côté d'un autre côté, on a toute la place que tout ce qui est grosse casserole, enfin pas grosse casserole, tout ce qui est matériel pour pouvoir cuisiner, en fait des planceaux et ainsi de suite, des sauteuses, en mon moment on appelle ça, pour mettre à chauffer l'eau, pour faire cuire les pâtes et ainsi de suite. C'est du matériel, voilà. Après, c'est vrai que en plus j'avais aussi pour leur expliquer aussi qu'en dessous en fait on avait la cambuse. Tout ce qui est cambuse, frigo et ainsi de suite, leur montait aussi à peu près que vous prenez une table sur sa longueur et vous imaginez d'en mettre deux, et c'est l'espace de stockage à peu près environ qu'on a pour pouvoir prendre tous les vivres pour la mission. Donc c'est pour ça que là généralement on peut prendre maximum 2 semaines de frais quand on part en mission, parce que après, bon, après au bout de 2 semaines bah, le frais commence un peu à tirer la fin de la gueule, et tout ce qui est conserve et congelé, et c'est pour ça que nous on est là pour justement améliorer ça au maximum pour que ça reste quand même très bon à manger et que l'équipage ne traîne pas des pieds pour venir manger, surtout que c'est leur seul temps on va dire de repos et de plaisir qu'ils ont à bord.
Parce que je suppose qu'il n'y a pas de ravitaillement sur un sous-marin.
Sur les types SNLE, non. Par contre, SNA, oui, on peut ravitailler en escale. On peut ravitailler, mais quand on est en escale. Voilà, après, vu comme les missions sont plus longues, bah, oui, il nous faut forcément un point pour pouvoir ravitailler, sinon on se retrouve vite à court. Surtout vu l'espace de stockage qu'on a, on ne peut pas se permettre non plus. Même là, on embarque généralement pour un mois et demi grand maximum. Après, au-delà, ça commence à être très très compliqué de stocker la marchandise.
Comment vous faites ? Vous avez un programme qui fait que le boulanger passe travailler la nuit ? Vous êtes pour le repas de midi, le repas du soir ?
Alors, le programme, bah, c'est souvent là. Nous, on n'est qu'une équipe de 4, par contre, sur SNA. On a du coup 2 maîtres d'hôtel qui gèrent les carrés, donc du coup commandant et le carré OM, OMS, équipage. Et après, on a le cuisinier et le commis qui est fait aussi boulanger, du coup, sur SNA. Donc lui, il fait la boulangerie, du coup, le soir. Et le matin, il nous fait les sorties pour qu'on puisse travailler, nous, après une fois arrivé en cuisine, pour qu'on puisse élaborer les plats. Et du coup, c'est comme ça que ça tourne. Lui, après, une fois qu'il a fait ça, il va se reposer. Moi, je fais tout ce que j'ai à faire. Lui, il revient nous filer un coup de main pour le service du midi. Et après, lui, il se recouche jusqu'au soir. Et au soir, il se relève pour faire ça. Et moi, le temps que... voilà. C'est à peu près l'organisation qu'on a.
Est-ce que c'est mieux de le faire sous l'eau ou c'est mieux de le faire dans un restaurant traditionnel ?
C'est pas, on va dire que c'est pas du tout pareil. On va dire qu'un restaurant traditionnel, on a pas le confort, mais on a le matériel généralement qu'on a besoin pour faire ce qu'on a. Ça plairait peut-être pas à tout le monde de travailler dans un tout petit endroit pour faire la cuisine. Après, c'est vrai que c'est un défi parce que ça demande quand même beaucoup d'organisation pour le nombre qu'on est, 80, et le peu de place qu'on a. Ça demande, ouais. Ça demande plus d'organisation que au-dessus. Au-dessus, on a un peu plus des fois de facilité à faire parce qu'on a un peu plus de place, un peu plus de matériel. Donc voilà. Après, les deux, ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir.
Quel est le plat que vous rêveriez de faire ou que vous faites ?
Alors, le plat que je rêverais de faire ou que je fais, généralement, ceux que j'aime bien faire, je les fais.
C'est lequel, par exemple ?
Moi j'aime bien tout ce qui est plat en sauce, généralement j'aime bien beaucoup faire les repas un peu familial, style bourguignon, tout ce qui est, comment on appelle ça, j'ai trop de mémoire, pot au feu, même faire des lasagnes, donc bonne plaque de lasagne. Généralement nous sur SNA ils ont des soirées pizza, donc tous les jeudis, ouais c'est vrai, donc généralement tous les jeudis soirs ils ont leur pizza, donc voilà, c'est un peu ce qui fait pour maintenir du coup... le moral de l'équipage, et voilà.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.